Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans une France de moins en moins chrétienne, nous allons parler justement des chrétiens et plus précisément des catholiques français avec nos deux invités, deux journalistes fins observateurs de la question, Patrice de Plainquette et Antoine-Marie Isoard. À vous deux, bonjour.
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 Patrice de Plainquette, je vais commencer par vous. Vous êtes journaliste, essayiste, ancien directeur de la rédaction du Figaro Magazine et puis auteur donc de nombreux ouvrages. Depuis que vous êtes passé de l'athéisme fervent au catholicisme aussi pieux, votre dernier livre demande aux catholiques de s'ouvrir au monde. Aux cathos, ne devenons pas une secte, et c'est publié aux éditions Salvator. Antoine-Marie Isoard, vous êtes journaliste également. Alors les auditeurs de RFI vous connaissent bien parce que pendant de longues années, vous avez été directeur de l'agence de presse Vaticane Immédiat à Rome, donc vous avez accompagné le pape, et puis régulièrement, vous étiez un intervenant sur RFI. Alors, vous n'avez pas écrit de livre, mais vous êtes aujourd'hui le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, qui est un journal qui fête ses 40 ans, et pour ses 40 ans, il s'offre un relooking, et vous présentez depuis 3 semaines une nouvelle version, une nouvelle maquette.
Une nouvelle formule de Famille Chrétienne, hebdo-catho et familiale. Voilà, on a certainement l'occasion de parler de ce public de Famille Chrétienne dans ce débat.
Voilà, absolument, c'est le thème. Un public qui assume effectivement totalement son identité, nous en parlerons. Je commence avec vous, Patrice de Plainquette, par votre parcours, parce que si on ne revient pas sur votre parcours, on ne comprend pas du tout votre engagement. Alors, vous étiez catholique, mai 68 arrive, vous avez 20 ans et vous jetez, non pas Jésus, hein, ça c'est important, mais vous jetez votre christianisme par-dessus les haies.
C'est-à-dire que j'étais, comme des milliers de jeunes de ma génération, élevé dans une famille catholique, études dans un collège catholique, etc. Mais c'était, si vous voulez, c'était une sorte de décor moral, de décor de c'était un climat de milieu. Et comme des milliers de jeunes de ma génération, en 68, parce que c'était très à la mode de se délabyrinter les consciences, on a constaté qu'on n'avait pas la foi. Tout simplement, et seulement par tempérament personnel, je suis allé plus loin que de rejeter, que de laisser tomber la pratique religieuse. Je suis carrément allé jusqu'au rejet du christianisme en lui-même, pour tout un tas de raisons, entre autres le spectacle que donnait un peu bizarre, que donnait, il faut bien dire, le catholicisme français après 68, où on voyait toute une frange de ce catholicisme, avec des prêtres et des laïcs, qui étaient en train de tout déconstruire, y compris les fondamentaux de la révélation judéo-chrétienne. Alors, pour les esprits logiques de ma génération, on s'est dit, dans ces conditions-là, c'est que le christianisme est un mensonge depuis 2000 ans. Alors, il faut revenir aux sources pré-chrétiennes, il faut en tout cas rejeter le christianisme et même éventuellement le combattre, parce qu'il pollue la société. Et en réalité, cet enlisement d'une partie du milieu catho français dans un sectarisme politique de gauche, faut bien le dire aussi, a eu pour contre-coup de détacher du christianisme toute cette génération d'étudiants dont j'étais. Alors résultat pour moi, 15 ans d'athéisme militant, c'est-à-dire anti-chrétien même pendant au moins les 8 premières années, dont je ne suis sorti que par la grâce de la conversion, qui m'est tombé dessus, de façon tout à fait imméritée.
Quand même pas comme Saint-Paul.
Mais
ça
pas
a été
du
plus,
tout comme Saint-Paul.
Ça a mis, manifestement.
Non, ça a mis 10 ans. Hein. J'ai mis 10 ans à réaliser ce qu'était réellement la foi chrétienne, que c'était pas une opinion, que l'Église n'était pas un parti, que Dieu n'était pas une bibliothèque que l'on consulte pour justifier nos propres opinions politiques, et que même éventuellement, la foi peut modifier nos idées sociopolitiques, ce qui a été totalement mon cas. Quand j'ai découvert Jean-Paul II, le message du 1er janvier 90, avec cet appel fulgurant à la protection de l'environnement et la mise en cause virulente par Jean-Paul II du modèle économique qui saccage la planète, moi qui étais qui travaillais dans un journal tout à fait de droite libérale pour lequel l'écologie c'était très mal, quoi.
On n'était pas très à gauche, quoi.
Je me suis dit, moi, ce pape que je découvre dans ce catholicisme que je suis en train de redécouvrir, ou plutôt de découvrir tout court, mais il est à fond pour l'écologie. Alors moi, je n'étais pas pour, mais si le pape est pour, eh bien, je vais devenir pour aussi, parce qu'il faut quand même que je me mette en cause.
Alors, est-ce que vous êtes au début, enfin, c'est ce qui semble quand même, un fanatique converti, hein, comme souvent les convertis peuvent avoir une fougue un peu excessive.
Au début, les convertis font, pardonnez-moi l'expression, souvent de grosses conneries au début. Pourquoi ? Parce que j'ai été pendant des années dans un antichristianisme de posture. Et tout naturellement, je suis passé à un catholicisme de posture. En réalité, ce qui m'impressionnait, la raison pour laquelle j'ai basculé du côté chrétien et catholique, c'est que dans ma phase athée, moi et mes amis, nous disions l'Église catholique est en train de mourir, elle se dessèche, tout ça va disparaître. Et brusquement, qu'est-ce qu'on voit sous l'impulsion de Jean-Paul II ? On voit l'Église catholique reverdir. Littéralement, on voit la foi réapparaître sous des formes nouvelles en France, alors que on l'avait enterrée trop vite. Et on s'est dit, en tout cas je me suis dit, il y a quelque chose de plus que de l'humain là derrière, cette résilience du catholicisme, cet influx vital, cette sève qui circule de nouveau, il y a autre chose, il y a du surnaturel là-dedans. Et quand on est engagé dans cette idée-là, ça amène à la rencontre avec le Christ, inévitablement. Si on est loyal avec soi-même, si on va jusqu'au bout de ces interrogations.
Alors, Antoine Marie-Zohar, moi je suis frappée par l'avalanche de livres actuellement sur le déclin, voire la disparition annoncée du christianisme. Alors, pour n'en citer que quelques-uns, celui du professeur d'histoire contemporaine Guillaume Cuchet, aux éditions du Seuil, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, le sous-titre, Anatomie d'un effondrement, toujours au Seuil, le philosophe chrétien Denis Moreau, dans son dernier livre, lui explique, d'ailleurs c'est le titre du livre, comment peut-on être catholique ? Alors c'est moins pour rallier de nouveaux fidèles que d'expliquer à un monde qui s'en éloigne les bienfaits de la foi chrétienne. Et puis, à la droite de Dieu, aux éditions du CERF, le livre de Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, le grand institut de sondage, qui lui étudie les postures politiques et sociétales de catholiques qui se sentent désormais minoritaires. Alors, Antoine Marie-Zohar, comment voyez-vous l'avenir pour votre journal Famille Chrétienne ?
Moi, je suis frappé par cet afflux d'ouvrages, plus que ceux qui éventuellement décriraient une disparition du catholicisme ou du christianisme, parce qu'en soi, on sait très bien quels sont les chiffres, il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. C'est sûr, le doigt pointé sur cette minorité, et c'est peut-être la seule chose avec laquelle je ne suis pas totalement d'accord avec Patrice de Plainquette qui est ici, c'est sur le fait que, peut-être qu'on va se retrouver malgré tout, mais sur le fait que moi, je vois bien dans mon lectorat des catholiques d'identité, mais pas obligatoirement des catholiques identitaires. Et je voudrais pas qu'on mette tous les catholiques de centre-droit, de droite, pour peu que ce soit mon lectorat. Je pense que ça l'est en partie ou largement, mais pas que. Dans ce catholicisme identitaire, c'est-à-dire ce qui signifierait besoin violent, haineux, j'ai l'impression, on en reparlera certainement, mais que ce phénomène est amplifié par la catosphère, les réseaux sociaux, Internet, les blogs, et qu'il est en train de, on est en train d'agiter un milieu qui en soi est plutôt paisible. Moi, je reconnais dans les lecteurs que nous avons chez nous à Famille Chrétienne, dans les retours que nous avons, dans les échanges que nous avons, un catholicisme assumé, en paroisse, en communauté. D'ailleurs, on a voulu ouvrir notre nouvelle formule dont vous, très gentiment, vous parliez tout à l'heure, il y a 2-3 semaines maintenant, par un panel des 7 familles cathos. On n'a pas voulu trop faire dans la sociologie, on a essayé d'être plus bienveillant, et on a essayé de découper ces familles catholiques. On a fait un jeu des 7 familles, et on a volontairement essayé de les catégoriser, même sans fermer, parce que je pense qu'il y a énormément de passerelles entre ces milieux. Voilà, la famille, comme on les appelait, charismatique, illuminée, inspirée, la famille tradismatique, parce qu'elle serait un peu tradie, un peu charismatique. Il y a d'énormes passerelles, la famille périphérique, qui serait peut-être un peu plus pape François, qui est peut-être celle de l'ami Patrice de Plainquette ici présent. Il y a un certain nombre de familles comme ça, catholiques, qui sont capables de vivre ensemble. Il est effectivement... Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un milieu assez fermé, un peu réserve d'Indiens, où on se protège.
C'est le catholicisme assiégé, là, oui.
Où on se ghettoise. Moi, ça, je le regrette, je le déplore, mais j'y assiste. Et nous ne faisons qu'une chose, c'est d'essayer d'ouvrir ces gens-là, qui peuvent faire partie de mon lectorat, bien sûr.
C'est majoritaire ou pas ? Appartient pas.
Non, bien sûr que non. Non, vraiment, je constate surtout une église apaisée. Seulement, il y a ce focus ou cet entonnoir des réseaux sociaux et d'Internet. Il suffit d'évoquer une affaire qui date d'il y a une semaine et demie, deux semaines, et qui continue au moment où nous parlons de faire des ravages. C'est une question du choix d'un jeune, du MRJC, de faire un communiqué sur Internet.
Alors, oui, MRJC,
le mouvement des jeunes catholiques ruraux, et qui, en fait, de catholiques dans leurs engagements, annoncés, ont peu de choses, même si je reconnais énormément la valeur de l'engagement de l'Action catholique. On en reparlera.
Oui, attends, on va peut-être en parler déjà maintenant. Oui, alors le MRJC, donc c'est un mouvement de jeunes ruraux. Il y avait la Marche pour la vie, c'est
ça ? Et il se dissocie à la veille de la Marche pour la vie dans un communiqué assez surprenant, disant « nous nous dissocions avec les messages de haine de la Marche pour la vie ». Je vais être très franc avec vous. Les messages de la Marche pour la vie, d'abord, ils n'avaient pas été faits. Enfin, ils présumaient de messages qui auraient été dits dans la rue 2 jours plus tard. Ils sont souvent animés par des médias hostiles qui disent « allez !» On pense à 2-3 magazines de télé qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller avec des caméras agiter les 2-3 fachos qui sont dans ces mouvements-là. Allez, 4-5 peut-être, et voire plus. Mais enfin, il faut pas insister, il faut pas exagérer. Il y a surtout des gens de bonne volonté. Et moi, nous avons répercuté le message de la Marche pour la vie des organisateurs, donc des gens qui ont vraiment la volonté de dire quel est leur message, de défendre la vie à son commencement et à son terme naturel. Et ce message était plein d'amour, vraiment pas de haine, plein d'attention, avec des éléments bien précis de discussion sur les lois bioéthiques et compagnie, les lois qui nous agitent en ce moment et qui nous font travailler. Mais ce mouvement décide de se dissocier. Bon, on lui a peut-être pas demandé son avis. Et surtout écrit, l'avortement est un droit fondamental. Donc c'est ça qui a fait sursauter pas mal de monde. Que l'on parle bien sûr de l'accompagnement des mères, que l'on parle de l'accompagnement des femmes, que l'on parle de la miséricorde. Hein, on en reparlera certainement, Patrice, avec vous, mais à tout péché miséricorde. Et Dieu sait si le pape François a évoqué cette question à la miséricorde, en particulier justement sur le péché de l'avortement, disant l'avortement c'est un péché, voilà, il y a une détresse en revanche, et ça il faut pouvoir y répondre. Donc je pense que là, il y a ces temps-ci, ces jours-ci, depuis 2 semaines, depuis ce communiqué, un débat très clivant, et qui montre que il y a des tenants de la doctrine dure, et que tout le monde ne se parle pas. Je finis juste pour dire, Geneviève, que moi, je l'ai dit aux gens de la Marche pour la vie, je l'ai publié sur les réseaux sociaux. On ne peut dissocier la vie au moment de la défense de l'embryon, la question de la dignité ou d'une mort digne, attention à ces mots qui sont piégés, de tout le reste de la vie. Et tout le reste de la vie, ce sont les exclus, ce sont les pauvres, ce sont les migrants, c'est l'autre. Et ça, c'est le message de l'Église.
Écoutez Religion du Monde, nos invités sont Antoine-Marie Isoard et Patrice de Plainquette. Patrice de Plainquette pour son livre Catho, ne devenons pas une secte. Patrice de Plainquette, vous êtes un aficionado des réseaux sociaux.
Hein? Comme je le disais, je pratique beaucoup les réseaux sociaux parce que sur Facebook en particulier, on peut avoir et on a des discussions approfondies, quelquefois acharnées, souvent constructives, entre points de vue, entre gens qui recherchent, qui s'interrogent, qui ont des craintes, qui cherchent des explications, qui trouvent que c'est pas clair, etc. Donc c'est important. Seulement, il y a un problème. Il y a un problème qui est que je serais moins optimiste que Antoine-Marie Isoard sur la question. On ne peut pas dire que les réseaux sociaux, c'est secondaire ou marginal. De nos jours, ce n'est ni secondaire ni marginal. C'est au cœur de la pratique de dizaines, de centaines de milliers de gens, en particulier chez les jeunes. Et on constate que grâce aux réseaux sociaux, il y a une prétendue catosphère. En réalité, ce sont les milieux ultra-conservateurs ou ultra-réactionnaires qui s'interposent entre les gens d'aujourd'hui et l'Église réelle. Alors, ce que disait Antoine-Marie Isoard n'est pas du tout le contraire de ce que je dis dans mon livre. Parmi les gens qui font vivre les paroisses, et je le sais bien, je vois la mienne, je vois toutes les paroisses que je fréquente, il y a beaucoup de gens qui sont parfaitement dévoués, parfaitement loyaux, parfaitement altruistes, qui marchent parfaitement avec l'Église et avec le pape François. Et dans les paroisses que je fréquente, l'encyclique Laudato aussi, qui est une encyclique très révolutionnaire.
Et donc l'encyclique sur l'écologie,
a été l'objet de soirées débats, de lectures en commun, dont le travail est fait très sérieusement. Mais il y a une autre partie de cette bonne bourgeoisie catholique de droite qui, elle, au contraire, se fourvoie dans une crispation nostalgique parce que ce milieu social a peur de beaucoup de choses, y compris d'ailleurs sur le terrain économique et social, pour l'avenir des enfants, moi, etc.
Peur du déclassement, oui.
Et que toutes ces peurs finissent par se cumuler et que ce pape qui arrive, au moment où on a peur par ailleurs, et qui arrive en disant, attendant, il faut faire, comme il vient encore de le dire, hein, en réformant les universités catholiques, il faut faire une révolution culturelle courageuse pour que le message catholique, pour que le messianisme catholique, pour que l'espérance dans le Christ irrigue un véritable dialogue avec tous les courants des idées d'aujourd'hui et avec tous les milieux. Parce que sinon, les catholiques, s'ils s'enferment, ne font plus la mission que le Christ leur a confiée, allez, et de toutes les nations, faites des disciples. Jésus n'a pas dit à ses disciples, allez, enfermez-vous pour rester purs entre vous. Et il me semble même qu'il y a la parabole du mauvais serviteur, dans laquelle il est bien dit que celui qui enterre son trésor parce que il a peur des comptes qu'on pourrait lui demander, et bien c'est le mauvais serviteur parce qu'il n'a pas fait fructifier. Alors le trésor, c'est le message. Le trésor, c'est d'aider nos contemporains qui n'ont plus la moindre idée en France du contenu de la foi chrétienne, c'est de les aider à découvrir le Christ. On ne convertit jamais personne. On peut au moins ne pas être obstacle à la conversion. Je veux dire qu'une certaine partisanerie politique, on a vécu là-dedans pendant 3 ans ou 4 ans. Le catholicisme était réduit à des histoires d'intention de vote de droite, naturellement, uniquement de droite, bien sûr, et uniquement à des problèmes de société. Je suis désolé, les problèmes de société, aussi graves soient-ils, et la bioéthique en est un, sont les positions catholiques dans ce domaine sont des produits dérivés de l'Évangile. Ce sont des, ils viennent par surcroît, mais c'est la fidélité au Christ, c'est de marcher avec le Christ qui est l'essentiel. Et si on n'a pas la foi et si on ne marche pas avec le Christ, on n'est pas dans l'essentiel et on cultive ce qu'on appelle des valeurs, ce qui ne veut en réalité pas dire grand-chose.
Alors quelques minutes, Antoine Marie-Zoar, avant le flash,
je me retrouve évidemment beaucoup dans ce que dit Patrice de Plainquette. C'est une évidence. Il n'y aurait aucune raison qu'on soit en opposition là-dessus. Je ajouterai 2-3 points quand même. D'abord sur les cathos de droite et sur les positions politiques, tout cet enfermement sur cette thématique-là, qui l'a voulu ? Ce ne sont pas d'abord les catholiques, c'est beaucoup les médias aussi. Et puis une certaine insistance dans un milieu effectivement de droite, cathos, évidemment sur certaines valeurs, certains principes non négociables. Une fois de plus, je reviens à ce que je disais tout à l'heure en conclusion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les principes non négociables de Ratzinger dans les années 80, bien avant qu'il devienne pape.
C'est-à-dire,
ils se sont sur l'engagement des chrétiens en politique et qui disait que la défense de la vie était un.
Oui, mais attendez, les principes non négociables, Ratzinger en a édicté 3, et ensuite, quand il a vu l'usage qu'on en faisait, c'était qu'on réduisait tout à ces 3-là, a dit attendez, toute la doctrine sociale est non négociable.
Vous avez exactement dit ce vers quoi j'allais, c'est-à-dire que ces principes non négociables, ils se sont étendus et ils s'étendent aussi avec le discours de François aujourd'hui, je pense.
Alors, effectivement, sur les migrants,
question de l'accueil de l'autre, de l'ouverture à l'autre, c'est une évidence.
Par exemple,
avec une des vertus de prudence que le pape donne aussi et dit aussi de temps à autre, mais il parle plus fort parce que, et moi j'ai eu le privilège, vous l'évoquiez tout à l'heure, de voyager avec le pape François et de m'apercevoir qu'en fin de compte, il disait sur la vie, sur l'euthanasie, sur un certain nombre de choses, la position de l'Église catholique est bien connue, et donc ce qu'il me faut, c'est redire à l'extérieur comme ad intra la position de l'Église sur plusieurs autres sujets. Très rapidement, sur les réseaux sociaux, moi je suis effaré, et vous le dites dans votre ouvrage, je suis effaré par la haine anti-Bergoglio en ce moment, et je voudrais qu'on entende qu'il n'est pas possible d'insulter le pape, de vouloir la mort des évêques. J'ai vu sur les comptes Facebook de Famille Chrétienne, on a fait tout fermer, certains posts, certains trucs, des attaques ad hominem contre des évêques, contre le président de l'épiscopat, des menaces de mort. Qu'on les fusille tous comme à la... j'ai lu ça. C'est indigne de la part d'un catholique.
Il n'est question que d'expulser des gens hors de l'Église.
En revanche, n'oublions pas que Benoît XVI a été, et Jean-Paul II, victime, entre guillemets, en tout cas, sous le feu d'autres milieux, de journalistes, de médias à l'époque. Donc, n'oublions pas ça.
Mais aujourd'hui, l'ennemi, il est à l'intérieur.
Voilà, l'ennemi est à l'intérieur d'une certaine façon, mais pas que, parce qu'il y a des gens que le discours de François sur la vie, quand il parle de l'avortement, ça dérange. Il parle moins fort, il en parle moins souvent, mais il en parle. C'est la doctrine de l'Église. J'entends, François est devenu un conservateur. Mais non, François, il est catholique, il est le pape. Donc, la doctrine de l'Église, on va se retrouver là-dessus avec Patrice de Plainquette, c'est une évidence. Et puis, un petit mot aussi sur les jeunes dont vous avez parlé et la question des réseaux sociaux. Oui, c'est un épiphénomène à mes yeux. Ça n'est pas marginal, en revanche, c'est secondaire. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes, en revanche, et là j'ai de l'espoir, et je le vois avec mes enfants, avec des ados, et je le vois avec l'enquête de la Croix très récemment sur les médias, les jeunes sont visiblement, de 14 à 25, 30 ans, beaucoup mieux préparés à ces fake news, et c'est peut-être notre génération qui a foncé là-dedans, qui l'était un peu moins, ne parlons même pas de la génération au-dessus, je pense à mes parents, d'autres qui voient passer des choses, ah mais c'est vrai, je l'ai lu sur Twitter, oh stop, ou sur Facebook.
On poursuit le débat, Antoine Marie-Zoar, Patrice de Plainquette, après le flash, reste à l'écoute de RFI.
Religion du monde, Geneviève Delrue.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent et nous retrouvons nos invités Antoine-Marie Isoard et Patrice Deplinquette. Le sujet de ce dimanche, la tentation de repli des catholiques français avec notamment le livre de Patrice Deplinquette, Cato, ne devenons pas une secte, publié aux éditions Salvator. Alors avant le flash, nous parlions de, de la haine presque de certains à l'égard du pape François. C'était vos propos, Antoine-Marie Isoard.
Je suis marqué par ces propos de haine que l'on peut lire, ces attaques à dominer contre le pape, contre des évêques, et je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, inadmissible de la part d'un catholique d'avoir tant de haine. Alors, c'est en marge, mais moi je le dis depuis 3 ans et demi, et certains me le reprocheront peut-être, on ne peut pas faire le deuil d'un homme qui n'est pas mort, et je crois que Benoît XVI, que j'aime énormément, pour qui j'ai beaucoup d'affection et que j'ai connu très personnellement jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, j'ai eu le privilège d'aller le voir dans sa retraite discrète au Vatican, n'a pas rendu service d'une certaine façon, on me le reprochera peut-être, mais je le pense, à l'Église en apparaissant encore de temps à autre, oui. Même s'il voulait être discret, il l'a fait sur beaucoup de points.
Bien que son acte soit historique. Tentation,
mais son acte est courageux, historique, il y aura d'autres papes émérites, comme dit le pape Bergoglio, comme dit François de temps en temps, comme il y a eu énormément d'évêques émérites.
Et qui n'ont pas démérité d'ailleurs, pardonnez-moi le jeu.
L'acte de courage de Benoît XVI est extraordinaire, mais voilà, ça ne rend pas service, je lui reproche pas du tout, hein, mais c'est une première dans l'histoire récente de l'Église.
Patrice Deplinquette, vous avez écrit un livre sur Benoît XVI.
Oui,
Benoît XVI et le plan de Dieu.
Juste après son élection. Mais je saisis l'occasion de dire qu'entre Benoît XVI et François, il y a beaucoup plus de points communs sur l'essentiel qu'on ne le croit.
Alors qu'on le présentait comme un pape de rupture.
Il y a une feuille de François. Papier à cigarette. Oui, non, mais je suis complètement d'accord.
Hier matin, sur une autre radio, que je ne nommerai pas, une auditrice a téléphoné pour lire 13 lignes d'un texte de Benoît XVI sur l'avenir de l'Église en Europe occidentale.
Et on a cru que c'était François.
Une analyse tellement révolutionnaire qu'on aurait pu croire que c'était du Bergoglio.
Mais c'est les propos de Ratzinger avant même d'être archevêque à Munich, donc
oui,
ils sont terriblement prophétiques.
Il faut bien se dire que toutes les structures, les coquilles vides que nous avons à l'heure actuelle vont partir en poussière, que les catholiques seront de plus en plus minoritaires, donc ils devront être de plus en plus missionnaires, et que ça devra se faire par une refonte générale des structures de l'Église en Europe occidentale pour être entièrement, qu'elle soit le support d'une action missionnaire tournée vers l'extérieur, et que le dynamisme missionnaire soit le charisme de tous les catholiques, quels qu'ils soient. C'était du Benoît XVI, c'était du Ratzinger.
C'est le concept des minorités créatives dans les années 70.
Ratzinger,
c'est ce texte-là, qui est prophétique.
Alors c'est justement ce dont les ultra-conservateurs ne veulent pas. Ils oublient que Ratzinger le disait déjà. Ils disent, c'est Bergoglio qui invente tout ça. On n'en veut pas. Pourquoi on n'en veut pas? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des gens qui ont peur du monde nouveau. Et en effet, par certains aspects, il peut être inquiétant. Mais c'est le monde que Dieu nous donne, que Dieu donne aux chrétiens.
Ou que les hommes font,
à évangéliser. Et non, mais de toute façon, le chrétien ne peut pas dire à Dieu, non, je veux changer de monde. Je t'ai mis dans ce monde-là, c'est à toi d'être un témoin du Christ dans ce monde-là, qui est la seule réalité.
Antoine-Marie Isoard, vos lecteurs ont peur? Peur du déclassement?
Il y en a certainement.
Peur de l'islam?
Il y en a certainement. Peur de l'islam, oui, ou du moins d'un islam qui serait politique. Et ça, on connaît bien le problème en France et ces dernières années.
Revenons quand même à notre sujet, on s'en est un petit peu éloigné. Donc, vous demandez, Patrice Deplinquette, aux catholiques de ne pas devenir une secte, de ne pas rester dans une sorte d'enfermement finalement mortifère et de sortir d'une forme de schizophrénie. Alors là, on en vient à un sujet plus compliqué. Pour vous, il y a une schizophrénie de catholiques, effectivement, qui d'un côté veulent défendre leur identité catholique et en même temps qui dans leur comportement économique voire politique favorisent un libéralisme, un ultralibéralisme qui ne peut pas aller avec le message de l'Évangile.
Oui, parce que ce à quoi l'Église nous appelle concrètement, c'est au témoignage évangélique, nous sommes d'accord, et c'est à changer les structures de péché dans le domaine économique. Or, toute une aile, il faut bien le dire, de la bourgeoisie française catholique, adhérant au système économique tel qu'il est, ne voit pas de quoi l'Église se mêle, alors qu'elle s'en est toujours mêlée depuis Léon XIII, 1891. L'Église a toujours critiqué le capitalisme libéral, c'est pas nouveau. Mais beaucoup de catholiques, spécialement issus des grandes écoles de commerce, etc., disent bon, que chacun son métier, chacun sa compétence, que l'Église s'occupe des questions spirituelles et familiales, et qu'elle laisse l'économie aux gens sérieux, c'est-à-dire à ceux qui s'y connaissent. Bon, ça c'est une façon schizophrène de voir les choses, parce que dans le monde actuel, l'économie s'est emparée de tout, elle s'empare également des comportements individuels. Maintenant, elle s'empare de l'intime de la vie biologique pour en faire profit et commerce.
Vous pensez à la GPA,
exactement, et puis derrière le transhumanisme, etc., ce qui est gravissime. Donc, si quelqu'un doit parler face à cela, pour opposer à cela une autre vision de l'homme, une réhumanisation de la société, c'est bien l'Église catholique, parce qu'elle a beaucoup à dire dans ce domaine.
Mais pour une écologie Marie-Zoua, humaine et intégrale, c'est-à-dire, et on va être d'accord là-dessus, pour une écologie qui, effectivement, met l'homme au cœur, et ça, c'est le pape François dans toute sa splendeur, mais pas que. Et puis, c'est le tout est lié de François, et je sais que vous y tenez beaucoup, et moi aussi, où effectivement, il y a la question de la vie, de la défense de la vie, mais la question de l'accueil des migrants. Moi, je reviens juste sur deux points. Moi, je vois un peu dans votre discours, et vous ne me le reprocherez pas, j'espère, un peu le complexe de l'ancien tradit ou l'ancien ultralibéraliste. D'accord, le libéralisme à outrance n'est pas encouragé par les papes, mais depuis Léon XIII, vous l'avez cité vous-même, depuis Léon XIII, l'entrepreneur a aussi toute l'attitude, il est défendu par les papes. Il n'y a pas que François, il ne faudrait pas qu'on s'arrête uniquement aux encycliques, aux textes de François, et qu'on revienne effectivement à tous les textes pontificaux antécédents.
Oui, la doctrine sociale de l'Église, ça remonte au XIXe siècle.
Et puis la tradition dans son ensemble, pour revenir au tradit, au monde tradit, la tradition liturgique s'entend. Elle a énormément de valeur. Moi, ce qui me gêne dans les milieux tradis, soyons clairs, c'est une idéologie qui est derrière, qui est en fond et qui parfois effectivement fait exclusion de l'autre et compagnie.
Ne me faites pas dire que j'ignore la tradition catholique. Évidemment, elle a sa valeur, mais la véritable tradition ne consiste pas à faire toujours les mêmes choses. Elle consiste à faire toujours des choses qui tentent au même but.
Un évêque disait j'aime tellement la tradition que j'en invente des nouvelles.
C'est-à-dire à faire connaître le Christ, et tout ce qui dans l'Église devient opaque et ne fait plus connaître le Christ doit être changé. L'Église doit se réformer elle-même pour être fidèle toujours à sa mission. Bien sûr, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus.
On marque une pause musicale. Antoine-Marie Zohar, Patrice de Plainquette. Antoine-Marie Zohar, là, ce qu'évoquait il y a quelques instants Patrice de Plainquette, je ne sais pas si vous y avez vraiment répondu, parce que vous parlez de la tradition. Patrice de Plainquette, si je traduis bien, évoquait la question économique. Vous vous disiez, mais attention, l'Église n'est pas non plus anti-libérale, complètement anti-libérale. Qu'est-ce que vous voulez exprimer par là ?
Là-dessus, c'est moi qui devrais répondre, parce que Antoine-Marie Zohar l'a dit. Et je dois dire que le libéralisme, ce n'est pas du tout la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre est de droit naturel, et il est bien évident l'entreprise, c'est très bien. Personne ne met en cause ça.
L'Église n'est pas contre l'entreprise, donc on est bien d'accord.
À aucun moment, elle ne l'a été. Le pape François ne l'est pas plus que les autres. Le libéralisme, c'est pas la liberté d'entreprendre. Le libéralisme, c'est une idéologie qui veut que rien ne s'oppose au règne de la finance dérégulée, que rien ne s'oppose au fonctionnement de loi de l'économie, entre guillemets, qui en réalité n'existe pas. Par exemple, la fameuse loi du ruissellement, qui voudrait que enrichir les plus riches retombe en pluie d'or sur les pauvres. Le pape François, dans le paragraphe 53 et 54 de la joie de l'évangile, dit « Cette loi est une utopie, elle n'a jamais existé, ça ne s'est jamais vérifié nulle part. » Et il le dit, il entre dans la technique économique pour dire que le ruissellement est une utopie. Donc le libéralisme, en fait, c'est ça. Et il aboutit à quoi ? Il aboutit à la dictature de la finance dérégulée, qui est le pire ennemi de l'économie réelle. Tous ceux qui ont une PME, qui savent la difficulté qu'ils ont à financer une PME et à pouvoir réinvestir et à pouvoir embaucher, savent que la finance folle globalisée est leur principal ennemi, parce que l'argent part sur le casino mondial planétaire au lieu d'aller dans l'économie réelle. Et tout le combat est là. Et ce qu'on attend, par exemple, de Monsieur Macron, c'est qu'il nous prouve qu'il a bien compris ça et qu'il va faire en sorte que les cadeaux qu'il fait aux entreprises ne vont pas filer sur le casino mondial.
Alors Antoine Marizoa, est-ce que dans votre lectorat précisément il peut y avoir cette schizophrénie? D'un côté on est pour l'ultralibéralisme économique et de l'autre on veut garder son identité catho.
Oui, bien sûr. Moi ce que je disais juste tout à l'heure, c'est que je pointais gentiment et affectueusement ou presque chez Patrice de Plainquette ce complexe de l'ancien tradit, vous le dites vous-même dans votre livre très clairement, et vous dites j'ai fait erreur quoi. Mais je pense pas qu'on puisse dire que tous les tradis aujourd'hui font erreur.
Mais qui a
dès
dit
lors
ça,
qu'ils sont... Non, mais voilà. Mais
attendez,
c'est ça que je voudrais pas recevoir.
Non, mais Antoine-Marie Zohar, je n'attaque dans mon livre à aucun moment les traditionnalistes.
On est bien d'accord. Mais le risque dans ces propos-là, et c'est un peu le risque que j'avais pointé, moi, avec l'ouvrage d'Erwan Le Modèle, qui était un très bon ouvrage
c'est
de
pas
cause
le même livre, hein.
Sur les identitaires, où j'ai l'impression un peu qu'on donne des leçons. Alors que l'on soit repenti ou entre guillemets, que l'on revienne, le mot est mal choisi, que l'on revienne sur son passé, que l'on donne des idées, que l'on éclaire le chemin des autres, très bien. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans votre ouvrage, Patrice. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Je voudrais pas que tout le monde pense tout d'un coup que les tradis, pas de salut dans le monde tradit. Et je suis pas vraiment un aficionados de la messe tradit. Personnellement, moi, je suis plutôt un charismatique paroissial.
Excusez-moi, mais je ne comprends pas pourquoi vous me parlez des tradis.
Effectivement, ça n'est pas le sujet, là, je crois.
Je ne m'en prends nulle part à la messe, au rite extraordinaire.
Pas la messe en latin, le sujet, là, oui.
À la forme extraordinaire du rite romain qu'on appelle vulgairement la messe en latin, que j'aime beaucoup et que je respecte, je n'ai jamais mis ça en cause.
Non, c'est ce qui peut sous-tendre derrière, effectivement.
Mais non, mais pas du tout. Le problème n'est pas là.
Non, c'est l'économie, le problème.
Le problème, c'est que la campagne de refus contre le pape François a commencé dès 2013 sur le terrain économique. Ça a commencé par les Américains. Déchaîné contre ce pape qu'ils appelaient communiste, avec Monsieur Gauthier Tedeschi, que vous voyez très bien qui il s'agit.
Donc le directeur de la banque
quand il était débarqué sous Benoît XVI de l'IOR, qui était absolument fou de rage contre ça, et qui depuis ne décolère pas et qui a même monté.
Oui, il faut être rappelé, parce que là on peut pas forcément comprendre si on n'a pas l'origine. Donc cet banquier italien avait été nommé à la tête de l'IOR
ultralibéral,
donc c'était la banque du Vatican, libéral, il a été débarqué.
Très libéral, nommé pour assainir la Banque du Vatican, c'est-à-dire pour réguler tout ça, mais il était trop libéral pour le faire, du coup, il est débarqué pour tout un tas de raisons, il n'accepte pas de l'être, et du coup, il se met à faire le procès, non plus de Benoît XVI, mais du pape François, en transportant sa colère sur le terrain religieux et moral, ce qui a dû faire au pape un très mauvais procès, parce qu'en réalité, ce qu'il lui reproche, ce sont ses positions économiques et sociales, qui sont les positions classiques de la doctrine sociale de l'Église.
Alors justement, est-ce que votre lectorat, Antoine-Marie Zohar, est dérangé par les propos du pape, les propos économiques et sociaux du pape? Et également par la question des migrants.
La question des migrants, essentiellement.
Ça, on le sait, oui.
Je pense que c'est vraiment la question des migrants qui est le plus douloureux ou le plus difficile à comprendre. Je pense qu'il y a aussi un problème de lecture des textes, il y a un problème de niveau de lecture des textes. On ne sait pas que ce pape est un pape très bavard, très disert en tout cas.
Très latino.
Que ses propos sont parfois, qu'il ne m'en veuille pas, de l'ordre du propos de comptoir, dès lors qu'il est devant les journalistes dans l'avion. J'ai eu l'occasion de passer 12 ou 13 vols en avion avec le pape lors de ses 12 ou 13 premiers voyages, avec un pape qui se lâche, qui dit des choses... Souvent qu'il a bien réfléchi, qu'il revient dessus. Il y a qu'à voir encore la semaine qui vient de s'écouler des propos sur les questions d'un évêque accusé d'avoir couvert un prêtre pédophile il y a très longtemps. Il dit oui, il n'y a pas de preuve, Puis finalement cette semaine, il vient s'excuser. Puis là, il vient d'envoyer une commission pour aller faire des enquêtes. Bon, il comprend que
il y a une spontanéité chez cet homme
qui est voilà. Ce que je veux dire par là, c'est pas tant de reprocher au pape sa façon de parler. Il y a les homélies du matin qui sont diffusés, publiés par les médias du Vatican, il y a des niveaux de lecture. Il faut entendre que le pape, quand il parle dans l'avion ou quand il parle à l'homélie du matin, c'est pas le magistère pontifical définitif. Il y a des prises de parole qui sont importantes, qui peuvent éclairer les catholiques. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de ça. On avait un pape Benoît XVI beaucoup plus discret. On avait un Jean-Paul II qui essentiellement donnait quelques interviews.
C'était la géopolitique, souvent.
On n'était pas du tout sur ces thématiques-là. Voilà, c'est ça qui dérange. Mais sur les migrants, le pape a aussi parlé des vertus de prudence. On l'a dit au début de cette émission. Il faut entendre ça aussi.
Alors, vertu de prudence, c'est quand il a été très critiqué, il est revenu sur ses propos.
Et puis, il faut surtout entendre que le pape, il parle au monde. Et quand il parle des migrants, il parle aussi des migrants chrétiens. et qui parle aussi, et ça beaucoup dans les rangs de ceux qui sont affolés par les paroles du pape sur les migrants, ben il parle aussi des migrants. Un des premiers pays d'immigration, c'est les Philippines. Ce sont les Philippines, avec des migrants à l'étranger qui ne sont pas accueillis correctement, qui n'ont pas la liberté de confesser leur foi, de professer leur foi. Et donc quand le pape parle de la liberté de professer sa foi, en pape, quand il parle en pape, eh bien il parle aussi des migrants, ou peut-être d'abord des migrants, ou en tout cas aussi des migrants philippins, des migrants catholiques. Et puis on a l'impression parfois qu'il y a que des méchants musulmans qui débarquent en France. Je ne crois pas que ce soit le cas. Les chiffres sont contre nous. En tout cas, ils ne sont pas dans ce sens-là. On sait que la majorité des migrants qui arrivent aujourd'hui en France, sont accueillis en France, ne sont pas musulmans. Donc il faudrait cesser effectivement ces théories. C'est là que j'appelle aussi à du calme dans nos propres milieux, dans mon milieu peut-être, et un peu de clairvoyance.
Patrice de Plaquette, vous vouliez vous exprimer sur la question des migrants.
Oui, que dit l'Église de France à propos des migrants ? Eh bien, elle dit que c'est à l'État de réguler les flux migratoires, mais que c'est aux chrétiens de reconnaître dans la personne du migrant son frère et son prochain, et d'avoir envers lui une attitude évangélique. Au lieu de tourner le dos aux migrants en effaçant la personne du migrant au profit de l'entité abstraite de l'immigration. Alors, sous prétexte qu'il y aurait un problème de l'immigration, on ne considérerait plus la personne du migrant, celui-ci ou celle-là, comme étant mon frère et mon prochain. Mais ça s'appelle mettre l'évangile entre parenthèses, et de la part de chrétiens, c'est très grave. C'est une question que je soulève dans mon livre, parce que, oui, si on adopte cette position-là, on oublie l'évangile, on zappe l'évangile.
Alors, moi, j'ai entendu chez des chrétiens dire « on nous culpabilise, le pape nous culpabilise ».
Non, mais c'est l'insistance du pape François qui dérange, je le sens bien, qui gratte chez certains, qui chatouille au plus que ça, qui dérange, qui secoue. Moi, je vois dans le pape François un pape qui secoue une fois de plus et qui nous bouscule, et qui nous bouscule à tout point de vue, qui nous déroute un peu, et surtout qui nous pousse à réfléchir aux priorités. On se retrouve, Patrice, je pense, là-dessus. C'est sûr que l'insistance du pape François, on l'a dit tout à l'heure, parce que il sait que les questions de bioéthique, de morale plutôt, sont très claires pour tout un chacun, chez les catholiques comme à l'extérieur. Ça reste à prouver avec certains événements récents au sein de l'épiscopat. Mais il y a à comprendre que le pape François est fils, petit-fils d'immigrés, et qu'il a cette insistance aujourd'hui, parce qu'il pense qu'aujourd'hui, il croit aujourd'hui, il juge que c'est une priorité. Maintenant, ça fait partie il faut surtout regarder toute la doctrine sociale de l'Église et être en accord avec elle et effectivement accueillir l'autre. Moi je suis au-delà de l'immigré, je suis très très frappé par, on en parlait tout à l'heure, on me disait est-ce que votre lectorat est tendu et ceci et cela. Je dis non, je sens un lectorat très apaisé, des catholiques très apaisés, engagés en paroisse, dans les communautés. Je suis marqué entre autres par tout ce qui est né de l'accueil de la personne faible, personne handicapée, avec l'OCH, avec l'œuvre de Jean Vanier très largement. Je pense aux maisons Lazare, à l'accompagnement des pauvres, des personnes de la rue. Tout ça, ça fait partie du christianisme social entre guillemets des années 2000.
Et du témoignage dont on parlait tout à l'heure.
Et en même temps, aujourd'hui, on est capable de béatifier bientôt des religieux martyrs d'Algérie qui ont donné leur sang, ou du moins qui ont accepté de rester sur le terrain en Algérie dans les années 90, au moment où c'était le plus dur, et qui nous engage à témoigner aujourd'hui en milieu difficile, si ce n'est hostile. Et en même temps, on va bientôt béatifier, en tout cas elle est sur la bonne voie, Madeleine Delbrel, qui aussi en milieu hostile d'une certaine façon,
assistante
sociale dans les années 30, ancienne chef ten scout, eh bien se coltine le marxisme, ne cède pas à l'idéologie athée, mais témoigne et courageusement se retrouve avec les militants ou les ouvriers.
Religion du monde. Geneviève Delru.
Alors, Patrice de Plaquette, l'émission touche à sa fin et il y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que vous êtes un catho de gauche ?
Est-ce que je suis un catho de gauche ? En tout cas, je ne suis pas un catho de droite. Pour deux raisons. La première, c'est que dans la société actuelle, gauche et droite, ça n'a plus beaucoup de signification.
À l'heure de Macron ?
À l'heure de Macron en particulier, puisque le phénomène du parti est immensément majoritaire de Macron à l'Assemblée nationale, est un phénomène qui est très difficile à situer sur l'échiquier politique, parce qu'il y a de la gauche, de la droite, et puis encore autre chose. C'est très mouvant, ce sont des choses qui sont en train de s'inventer. Et que d'autre part, les partis actuels, les partis classiques de droite et de gauche, sont les uns en plein naufrage, les autres en pleine incertitude. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont introvertis, ils sont tournés vers faire eux-mêmes en réalité. Et comme justement ces partis ne correspondent plus au monde nouveau, eh bien eux-mêmes sont dans une triste situation. Par conséquent, dans la société, gauche, droite, ça ne veut pas dire grand-chose, et je ne me définirais sûrement pas comme un catho de gauche ou de droite pour cette raison-là déjà. Maintenant, d'autre part, dans l'Église, il faut sortir de cette manie de certains catholiques en France, c'est très français, hein, franco-français même, de coller des labels gauche, droite, ou traditionnaliste, ou charismatique, ou progressiste, etc. Ça n'a absolument aucun sens, d'une part par rapport à la foi chrétienne, et d'autre part parce que ça dispense le catholique de se remettre en cause et de réfléchir sur le fond des problèmes. Et le fond du problème, c'est est-ce que je marche avec Jésus-Christ, car finalement la seule identité du catholique croyant, c'est la personne de Jésus-Christ, et Jésus-Christ nous emmène où il veut, il nous emmène Dieu seul sait où, et il faut savoir y aller.
Oui, mais il y a quand même un bulletin de vote, Patrice de Plaquette, que le catho met dans l'urne, et quand je lis quand même votre livre, et notamment un extrait du discours que vous avez choisi de quasiment remettre intégralement, du discours du pape, c'était en Bolivie en l'été 2015, quand il s'adresse au mouvement populaire autochtone. Le pape dit « La première tâche est de mettre l'économie au service des peuples. Les êtres humains et la nature ne doivent pas être au service de l'argent. Disons non à une économie d'exclusion et d'injustice où l'argent règne au lieu de servir. Cette économie qui tue, cette économie exclut, cette économie détruit la terre-mère. » Ça, c'est quand même une position quand même politique, non ?
C'est une position politique et le pape parle au mouvement populaire latino-américain et au mouvement populaire indieniste même. Donc, le pape présente le message catholique comme totalement ouvert sur les angoisses, les luttes, les combats, les vrais problèmes des gens d'aujourd'hui, de tous les gens, pas les gens classés selon leur obédience religieuse.
C'est pas du Mélenchon pour vous, c'est pas du Parti des Verts, non.
Et c'est le contraire de la crise précisément de la politique française et du catho de gauche, du catho de droite et autres découpages qui sont du nombrilisme en réalité. C'est des gens qui se regardent le nombril, alors que le pape c'est le contraire. Il ne regardait donc pas votre nombril, regardez autrui, regardez le monde, regardez l'humanité, soyez solidaires du reste de l'humanité, parce que c'est ça que Jésus-Christ vous demande de faire. Si vous avez la foi au Christ, vous êtes forcément ouvert sur l'humanité, ouvert sur le monde, et ouvert sur l'accueil, la solidarité et les luttes concrètes. Il faut être aux côtés des gens d'aujourd'hui, dans leurs véritables problèmes, pas dans les problèmes internes d'un milieu catholique qui finalement n'intéresse que lui-même.
Mais Patrice de Plaquette, l'offre politique, elle est où ?
Justement, elle n'est nulle part. Et ceux qui sont entrés dans des partis classiques en croyant y faire quelque chose ont compris leur douleur assez vite. Il faut inventer autre chose, il faut inventer de nouvelles participations dans la cité. La démocratie participative, il faudrait que ça cesse d'être un mot pour que ça devienne une réalité vécue. Mais tout ça est à inventer. Il faut faire surgir les réponses à des questions qui sont entièrement nouvelles et qui sont même aujourd'hui sans précédent.
Bien. Alors, pour conclure, Patrice de Plaquette, Antoine Marie Zohar. Donc, Patrice de Plaquette, si je résume bien votre pensée, il faut sortir d'un catholicisme de patrimoine pour s'ouvrir au monde. Et là, je reviens à votre introduction. Vous avez commencé votre livre par la tragique affaire du père Hamel, ce prêtre de la banlieue rouennaise, assassiné par deux djihadistes. Pour vous, l'émotion que cette affaire a suscitée chez les chrétiens, chez les musulmans aussi, eh bien, elle est porteuse d'un message.
Dans un pays totalement déchristianisé, presque totalement, et qui est dans lequel la plupart des gens ignorent complètement la foi chrétienne, la mort de cet homme qui était entièrement dévoué aux autres, qui était d'ailleurs également en plein dialogue interreligieux, puisqu'il était dans une banlieue populaire, les environs de Rouen, il y avait beaucoup de musulmans, que cet homme-là, soit martyrisé par des djihadistes, ça a brusquement révélé à des centaines de milliers de gens en France le véritable visage de la foi chrétienne et catholique. D'où l'élan d'intérêt qu'il y a eu, une émotion d'ailleurs qui a même atteint les médias et les milieux politiques, étonné de voir que l'Église catholique ne réagissait pas par des appels à je ne sais pas quelle crispation, fermeture ou vengeance, mais au contraire par un témoignage d'évangile accru et souligné encore. Et il faut reconnaître également que Emmanuel Macron a fait un très bon discours lors de la commémoration à Saint-Étienne du Rouvray.
Où beaucoup de musulmans étaient là, d'ailleurs.
Et aux obsèques du Père Hamel à Rouen, il y avait des femmes voilées, il y avait des imams, etc. Donc, voilà, c'est avec des choses de ce genre que le catholicisme se fait reconnaître pour ce qu'il est vraiment et que l'étincelle recommence à briller. Mais ce n'est certainement pas en élevant des murs, spécialement de politisation, entre certains milieux catholiques et le reste de l'opinion.
Voilà, effectivement, le fond de votre livre, Cato, ne devenons pas une secte, aux éditions Salvator. Le mot de conclusion, Antoine Marie Zohar.
Je rejoins évidemment Patrice de Plainquette. Je suis pas pour le dialogue, mais en revanche, je suis très très touché. J'ai été très touché aussi par ce témoignage, et je crois qu'on revient effectivement à l'essentiel, le témoignage des catholiques, des chrétiens aujourd'hui dans notre société, quelles que soient les épreuves. Et j'ai eu le privilège, de me retrouver à la table du président de la République quelques jours après la mort du père Jacques Hamel, donc de François Hollande qui nous invitait. Quelques directeurs de la presse catholique pour discuter justement de ce qui venait de se passer. Et j'ai vu dans ses yeux et dans les propos qu'il a tenus en privé qu'il avait été marqué, mais profondément marqué, par justement la réaction paisible, sereine, priante, pacifique des catholiques. On venait de vivre quelques jours avant le carnage sur à Nice. Et où il y avait eu après des rebonds politiques, des remous énormes, des critiques très fortes contre l'État et le gouvernement. Et là, il avait vu que dans les témoignages de Mgr Lebrun, l'évêque de Rouen, des catholiques, des religieuses, des musulmans, qui avaient une possibilité de dialogue.
Et qu'au contraire même, que ce genre d'événement soit une possibilité de se rapprocher entre catholiques et musulmans, entre chrétiens et musulmans.
Tout à fait.
Je vous remercie, Antoine Marie Zohar. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne qui ouvre une nouvelle formule depuis 3 semaines. Je vous remercie. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.